Ok, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour ce week-end. Vous savez que c'est la fin d'une semaine particulière. Il y en a qui savent, c'est bien, un point en plus. Semaine des mathématiques, c'était la semaine qui commence aux alentours du 14 mars, aussi appelée journée pi, et qui se trouve être, incidemment, l'anniversaire d'Albert Einstein. Et donc, la meilleure et la pire erreur de Poincaré, c'est le thème qui a été choisi pour cette conférence qui vient clore la semaine des mathématiques. On va parler de Henri Poincaré, on va parler de son parcours et tout ça. Qui, dans cette audience, connaissait déjà Henri Poincaré avant de venir ici? Qui connaissait déjà Poincaré? Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, et à la fin de la conférence, vous le connaîtrez encore mieux. Poincaré, et certainement l'un des mathématiciens qui ont le plus marqué dans l'histoire mathématique française, pourtant riche en mathématiciens et mathématiciennes. Certainement les deux mathématiciens français qui ont, non, il y en a plus que ça, mais on va dire, à partir sur les 200 dernières années, Poincaré et Galois sont les deux qui ont le plus fait parler d'eux et le plus impressionné dans l'histoire des idées mathématiques. Et puis, avec Poincaré, il y a quelque chose d'autre, c'est que c'est pas seulement les grands théorèmes, mais aussi toute une façon d'agir, toute une façon d'être et toute une façon de discuter et de parler du processus de création qui a beaucoup marqué. La pensée n'est qu'un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Ça, c'est une citation de Poincaré qui est souvent associée à lui. Et qui était le jour, par exemple, où il y a eu une célébration pour le centenaire de la disparition de Poincaré. Une gerbe a été déposée sur sa tombe avec cette inscription dessus, tant elle était emblématique. Et puis, petit mot aussi sur l'angle qui a été choisi. La meilleure et la pire erreur de Poincaré veut dire qu'on va parler de Poincaré à travers certaines de ses erreurs monumentales. Et évidemment, en gardant en tête que on est en train de parler des erreurs de celui qui était, on peut dire, le meilleur mathématicien du monde à son époque. Et ça nous amènera à parler un peu des erreurs. Voilà. Alors, quelques repères chronologiques, si vous voulez bien. Nous voici donc avec Jules-Henri Poincaré. Naissance en 1854 à Nancy, Poincaré n'a que 16 ans quand il connaît la débâcle française face aux voisins allemands. Vu de Nancy, c'était encore pire que vu d'autres régions de la France, c'était l'occupation. Poincaré a gardé un traumatisme de cette époque qui était partagé très largement par sa génération. En même temps, il en a gardé une très forte familiarité avec la culture allemande. Il parlait un excellent allemand, ce qui était important à une époque où les sciences s'écrivaient en français comme en allemand. 1873, il entre à l'école polytechnique, dont il est sans doute le plus illustre des anciens élèves. En 1879, le voici ingénieur et docteur. Il continuera toute sa vie à garder le titre d'ingénieur, même si c'était en principe incompatible avec une carrière universitaire. Incompatible au sens de interdit. Assistant professeur à Caen, c'est son premier poste. Il en reviendra 2 ans plus tard, en 1881, une année faste, où il réalise un mariage heureux, où il obtient les premiers grands résultats qui le font considérer comme un des meilleurs mathématiciens français, et où il obtient son poste de professeur à la Sorbonne, peut-être le poste le plus prestigieux qu'il pouvait espérer. Il y enseignera toute la mathématique et toute la physique de son temps. Homme universel, Poincaré était tout à la fois ingénieur, physicien, mathématicien et plus tard auteur d'ouvrages à succès, écrivain, disons. On dit de Poincaré que c'est le dernier humain à avoir maîtrisé l'ensemble des connaissances mathématiques de son temps. Quelque chose qui n'est plus envisageable maintenant vu l'explosion de la quantité de savoir mathématique. Et puis, on va dire aussi que son statut par rapport à la discipline change en 1887 quand il se lance dans un concours très médiatisé, le prix du roi Oscar II de Suède. Sa victoire à ce concours lui vaudra les honneurs de la presse et le transformera en héros national. À partir de là, Poincaré, c'est pas seulement une vedette parmi les mathématiciens, la France entière sait que c'est le plus grand savant français. 1899, puis en 1904, le voici expert au prophète Dreyfus, où il représente ses collègues scientifiques pour dénoncer l'absurdité des soi-disant preuves mathématiques qui sont opposées à Dreyfus par ses attaquants les plus acharnés. C'était d'autant plus méritoire que ça correspondait pas tellement à son orientation politique, on va dire, Poincaré, on en reparlera. 1901, puis de 1901 à 1911, Poincaré écrit des ouvrages grand public qui obtiennent un grand succès et font vraiment de lui une figure extrêmement connue. En 1910, le docteur Toulouse l'examine, espérant découvrir le secret de son génie, il ne trouve rien. En 1912, Poincaré meurt prématurément à Paris lors d'une opération qui tourne mal. Si c'est à cette époque-là, la presse titre « La France a perdu son plus grand mathématicien » et ainsi de suite, sont des funérailles nationales. À cette époque-là, d'ailleurs, on propose à la famille Poincaré de le faire enterrer au Panthéon, ce que la famille décline. Poincaré, quand on regarde, on voit que c'était pas un grand voyageur, ça ce sont les endroits où il a vécu. C'était un homme du Nord. Et si on le voit, physique, on voit que c'était pas un foudre de guerre. C'était le profil du bon bourgeois, un peu ventripotent, pas tellement sportif, hein, pas tellement de passion en dehors des choses intellectuelles. Et en revanche, un très grand lecteur, hein, sans arrêt à sa table de travail. Et puis, politiquement, on va dire, conservateur, famille aisée, aux antipodes de l'autre grand mathématicien français illustre dont je parlais tout à l'heure, Évariste Galois, qui lui était du genre révolutionnaire, sans le sou, toujours en contestation, se retrouve en prison et ainsi de suite. Aux yeux de la presse, Henri Poincaré était comme un jongleur d'idées, vous le voyez ici représenté comme jonglant avec tous les concepts. Prince des mathématiciens, comme on disait. Et portant très haut le nom, l'honneur de la famille Poincaré, qui par ailleurs était assez fourni en personnages illustres, en particulier le cousin Raymond. Qui connaît Raymond Poincaré? Ah, il y en a quelques-uns. Il a eu un certain succès dans sa carrière. Il a été président de la République, quelque chose comme ça. Il a cependant, c'était un politique et comme on sait bien, la gloire des scientifiques sur le long terme éclipse celle des politiques. Et petit à petit, c'est le Henri est devenu le personnage le plus, celui disons dont l'influence perdure le plus dans la famille. On prête à Georges Clémenceau, adversaire de Raymond Poincaré, la boutade qui suit, à une époque où ils étaient pas tellement tendres les uns avec les autres, vous me direz que ça n'a guère changé. La boutade qui suit, il y avait beaucoup d'intelligence dans la famille Poincaré, mais c'est Henri qui a tout pris. Voilà. Alors, aujourd'hui, Henri Poincaré, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme héritage, comme institution? D'abord, c'est un institut que j'ai l'honneur de diriger depuis 2009, Institut Henri Poincaré, la maison des mathématiques, comme on l'appelle, construite dans le contexte très particulier de l'après-Première Guerre mondiale, où il fallait reconstruire une science en ruine, construite pour accueillir des scientifiques du monde entier et discuter de mathématiques, et pour former les mathématiciens, mathématiciennes. C'est un institut qui s'occupe aussi de diffusion des savoirs, de faire le lien entre la communauté scientifique et le monde médiatique et le monde politique. Et puis qui sert de soutien à toutes sortes d'institutions qui sont occupées à promouvoir la discipline. Institut Henri Poincaré est le deuxième plus ancien institut international en mathématiques après l'Institut Mittag-Leffler à Stockholm. Et parmi les instituts français, c'est le plus important, celui dans lequel il y a le plus d'activités, le plus d'invités. Henri Poincaré, c'est aussi un prix. Le prix Henri Poincaré est le plus prestigieux prix international de physique mathématique, décerné tous les 3 ans à des personnes qui ont fait de fortes contributions dans le domaine, soit des grandes gloires du sujet, comme Barry Simon, Freeman Dyson, Herbert Spohn ou Thomas Spencer, soit des jeunes au sommet de leur activité, comme Nalini Anantharaman, Sylvia Serfati ou Alexei Borodin. Et puis, Poincaré, ce sont des références culturelles. Dans cette caricature de David Levine, on le voit comme le modèle du savant habité par la passion, qui a une illumination en plein milieu de son repas et se met à griffonner fiévreusement sur la nappe, tout entier perdu dans ses pensées. Dans ce roman de Leonard Rosen, All Cry Chaos, il apparaît comme un symbole de perspicacité, hein, un Henri Poincaré mystery. Et le détective qui s'appelle Henri Poincaré résout une énigme par la force de sa pensée. Poincaré est aussi un personnage dont on aime bien raconter les histoires, comme ici, dans cette conférence publique de notre confrère Étienne Gis, à l'occasion de la célébration de la démonstration de la conjecture de Poincaré par le mystérieux et génial mathématicien russe Grigori Perelman. Gis faisait cette conférence dans laquelle il s'amusait, comme vous le voyez ici, à prendre la racine carrée de Poincaré dans le plan complexe. À l'entrée de l'Institut Henri Poincaré, j'ai fait mettre une plaque de bronze pour rappeler les grands accomplissements du grand homme. Ici, voici le plâtre qui a servi à faire le moulage, réalisé par l'artiste Claude Gondard. Vous voyez sur cette illustration Poincaré au cœur de symboles de certaines de ses plus grandes contributions. La conjecture de Poincaré, qui porte sur la forme de tous les univers bornés possible, univers, disons, une géométrie de dimension 3, éventuellement tortueuse, et qui a été résolue après près d'un siècle. Une illustration sur les groupes fuchsiens, qui est associée à certains de ces célèbres éclairs de créativité, on en reparlera. 3 boules pour parler du problème des 3 corps, qui l'a rendu très célèbre, et qui a mené à ses travaux sur les systèmes dynamiques dans lesquels il y avait les germes de la théorie du chaos, qui est ce pourquoi a été représenté ici, par exemple, un attracteur de Lorentz. On va en reparler. Des pavages aléatoires pour rappeler que Poincaré a fait avancer la théorie des probabilités. Quelques fluides parce qu'il s'intéressait aussi à ce sujet. Et puis une petite cerise sur le gâteau, l'artiste un peu potache a mis des Poincaré sur les i de Henri Poincaré. Des articles célèbres de Poincaré, en voici quelques-uns. Certains articles fondateurs sur le problème des 3 corps, ou bien un autre sur la théorie de l'électron. Article célèbre parce qu'il contient déjà toutes les grandes formules de la relativité restreinte. À une époque où c'était dans l'air et où, entre Minkowski, Poincaré, Lorentz, Einstein, une nouvelle théorie était en train de se faire, Poincaré, même s'il avait toutes les formules utilisées par Einstein, n'allait pas aussi loin que lui dans l'interprétation des résultats. Et puis son article sur l'analysis situs ou topologie, un article extrêmement impressionnant, premier article suivi d'un complément, d'un second complément, un troisième complément, et ainsi de suite, des centaines de pages pour fonder la théorie moderne de la topologie ou science des formes. Intéressant de consulter la dernière page du dernier complément de cet article. On y trouve il resterait une question à traiter. Est-il possible que le groupe fondamental de V se réduise à la substitution identique et que pourtant V ne soit pas simplement connexe? Ceci, chers amis, s'appellerait plus tard conjecture de Poincaré. Au bout de quelques lignes de discussion, Poincaré dit: cette question nous entraînerait trop loin. Tu parles. Il a fallu 98 ans d'efforts pour résoudre ça, 4 médailles Fields, un prix Shaw, c'est devenu le prix, le problème de géométrie le plus célèbre de tout le XXe siècle. Ça a fait faire des bonds de géants à la géométrie. Donc un problème particulièrement fécond. En mathématiques, il y a 3 façons d'accéder à la postérité. Soit vous démontrez des beaux théorèmes, soit vous trouvez des beaux problèmes, soit vous laissez des beaux concepts. Et Poincaré s'est illustré dans les 3. On va parler un peu des concepts. Par exemple, le sujet des équations différentielles, revues et reconceptualisées par Poincaré, ça a été une révolution. Une équation différentielle, c'est quoi? Vous avez un système, c'est peut-être un système mécanique, c'est peut-être un système vivant, c'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Et pour représenter cette évolution au cours du temps, vous avez une équation qui vous dit que la variation du système, l'état du système ici représenté par x, cette variation, sa dérivée, sa variation infinitésimale, est représentée par une fonction qui dépend du temps et qui dépend de l'état du système. Par exemple, l'équation la plus simple, la dérivée du système est égale au système lui-même, x point égale x, c'est un truc qui croît et qui croît, plus il y en a, plus ça augmente, et ainsi de suite. Exponent, croissance exponentielle en l'occurrence. Alors les équations différentielles, on peut y penser comme à une formule et on le résout avec des formules, mais Poincaré préférait beaucoup le voir de façon géométrique. Vous avez un point qui se balade dans l'espace des possibles et ça représente l'évolution de votre système, et ce mouvement dans l'espace des possibles, on y pense comme à une particule qui serait entraînée par un flot, où la vitesse du fluide représente la variation d'évolution. Et vous avez une correspondance entre les deux façons de voir les choses. C'est équivalent, mais si vous y pensez de façon géométrique, vous avez accès à plus d'intuition, plus d'outils. Et Poincaré s'est illustré en démontrant la fécondité du point de vue géométrique. Alors, on va regarder quelques petites animations pour mettre ça en pratique. À gauche, l'une des équations les plus emblématiques parmi les équations différentielles, celle qu'on apprend, l'une des premières qu'on apprend dans tous les cours d'équations différentielles. Un pendule. Prenez ça, c'est un pendule, hein, n'est-ce pas? Vous avez un poids qui est attaché à une corde ou une tige, si on voulait simplifier. Et puis, vous lui donnez un peu d'énergie, ça oscille. Et s'il n'y a pas de frottement, ça oscille pour toujours. Et il y a une équation qui parle de son évolution. Et les pendules, on a commencé à les étudier, en fait, très tardivement dans l'histoire de l'humanité, vers 1600 avec Galilée. C'est au milieu du XVIIe siècle qu'on le met en équation différentielle. Voici l'équation différentielle, θ point point, c'est-à-dire l'accélération de l'angle. Hein, l'inclinaison du pendule, là, l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale c'est 0, et puis là l'angle évolue, il monte, il descend, ainsi de suite. L'accélération de cet angle est égale à moins g sur l, l la longueur du pendule, g la force de la gravité, fois le sinus de l'angle. Bon, regardons cette petite animation. En fait, c'est un cours sous forme électronique réalisé par Chazotte et Monticelli tout récemment, un e-book comme on dit, dans lequel on va voir l'équation différentielle à l'œuvre. Et on va regarder le pendule dans l'animation, on voyait l'animation, et en même temps vous verrez au-dessus un petit point qui se balade dans l'espace des possibles, dans l'espace des états. Ce point, il a 2 composantes. Une composante qui vous parle de l'angle, de la déviation par rapport à la verticale. Une autre composante qui vous parle de la vitesse de variation de cet angle. Le pendule s'agite. Et en même temps, vous voyez au-dessus comment ça se passe dans l'espace des états ou l'espace des phases, comme on dit. Allez, amusons-nous à mettre une énergie plus faible pour le pendule et ça décrit une autre trajectoire dans l'espace des états. Et puis, au contraire, si on lui met une forte énergie, voilà, c'est encore une autre trajectoire. Et comme ça, petit à petit, vous voyez se dessiner l'ensemble des trajectoires possibles dans cet espace des états. Et il y a une forme, petit à petit, qui se dessine, une géométrie. On y pense, comme on disait, comme à un ensemble de vitesses d'un fluide et une petite particule qui serait entraînée par le fluide. On peut aussi travailler directement dans l'espace des états. Et puis, regarder ce qui se passe, explorer toutes les trajectoires possibles comme ça. Voilà, en avant, une grosse énergie, il tourne, 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 voilà, de plus en plus vite. Vous voyez une figure se dessiner qu'on aime bien comparer à un œil. Voilà. Voilà, ça c'est la construction de l'espace des phases du pendule pesant. Et comme je vous disais, on apprend ça dans tous les cours d'équations différentielles un peu avancés, dès que vous suivez un cours à l'université. Allez, joli, hein ? Alors, regardons un système un peu plus rock'n'roll. Vous voyez l'équation ici. L'équation est bien plus compliquée. Pourtant, le système, il n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est juste deux pendules l'un accroché à l'autre. Allez, en avant. On va spécifier la configuration initiale du pendule. Et vas-y. Alors, vous regardez, c'est plus désordonné, hein, vous voyez ? Vous voyez dans l'espace des phases, là ? Bon, en fait, c'est un système qu'on appelle chaotique. L'un des plus simples exemples de système chaotique. Il y a une définition, il y a plusieurs façons de comprendre le mot chaotique, mais il y a des théories très précises sur ce que c'est qu'un système chaotique et comment on les étudie. On va s'amuser à lui donner une énergie un peu plus forte. Allez, en avant. Vous voyez l'espèce de gribouillis en haut, ben c'est la trajectoire de double pendule dans l'espace des phases. Du moins une projection de cette trajectoire. Bon. Alors, pour la beauté de la chose, on va regarder quelques équations et on va voir cette correspondance entre le point de vue en formule et le point de vue en géométrie. Vous voyez ici, ce sont des équations qui sont présentées, donc il y a différentes formules. À chaque fois, on a la variation. Il y a une formule avec des sinus, des choses comme ça, des choses assez simples. On les regarde comme ça, on a beaucoup de mal à dire ce que ça fait. Et on va regarder au fur et à mesure, pour chacune de ces équations, on va afficher le portrait de phase, les trajectoires pour les différentes trajectoires correspondant à différentes valeurs des états initiaux. Et celles-ci ont été sélectionnées avant tout pour leur côté esthétique. Bon, voilà. Ça, et ainsi de suite, ça, on pourrait continuer. Alors, évidemment, c'est équivalent, mais c'est une intuition complètement différente. Et Poincaré s'est illustré particulièrement là-dedans. Donc, des concepts qui donnent des outils nouveaux et des points de vue nouveaux aux scientifiques. Et puis Poincaré, très fort aussi pour ses écrits pour tout public et puis ses citations avec un très bel art de la formule, des citations concises, parfois profondes, qui sont bien, c'est bien d'en connaître, d'en avoir un petit stock des fois pour caser dans telle ou telle circonstance. En voici quelques-unes parmi mes préférées. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. La recherche de la vérité doit être le but de notre activité, c'est la seule fin qui soit digne d'elle. Le savant doit ordonner. On fait de la science avec des faits, comme une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. La faculté qui nous apprend à voir, c'est l'intuition. Sans elle, le géomètre serait comme un écrivain qui serait ferré sur la grammaire, mais qui n'aurait pas d'idée. Et puis, l'intuition, justement, c'est peut-être ça qui est resté le plus attaché au nom de Poincaré. Célèbre pour ses illuminations fulgurantes, qu'il était incapable d'expliquer lui-même, et pour la façon dont il en a parlé. L'épisode du marchepied qui a été abondamment étudié par les spécialistes des sciences cognitives, nous parle justement de ces moments eureka, comme on les appelle, où quelque chose se dessine, comme si une révélation venait nous frapper alors qu'on s'y attendait pas. Je vais vous lire cet épisode du Marche-Pied. Relaxez-vous, détendez-vous. Souvenez-vous quand votre maman vous lisait des histoires, quand vous étiez petit. Et écoutez Poincaré nous parlant de certaines de ses aventures du temps où il était jeune mathématicien. Il est temps de pénétrer plus avant et de voir ce qui se passe dans l'âme même du mathématicien. Pour cela, je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de rappeler des souvenirs personnels. Je vous demande pardon, je vais employer quelques expressions techniques, mais elles ne doivent pas vous effrayer, vous n'avez aucun besoin de les comprendre. Je dirais par exemple, j'ai trouvé la démonstration de tel théorème dans telle circonstance. Ce théorème aura un nom barbare que beaucoup d'entre vous ne connaîtront pas, mais cela n'a aucune importance. Ce qui est intéressant pour le psychologue, ce n'est pas le théorème, ce sont les circonstances. Depuis 15 jours, je m'efforçais de démontrer qu'il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j'ai appelé depuis les fonctions fuchsiennes. J'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail, j'y passais une heure ou deux, j'essayais un grand nombre de combinaisons et je n'arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude. Je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule. Je les sentais comme se heurter jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique. Je n'eus plus qu'à rédiger les résultats, ce qui ne me prit que quelques heures. Je voulus ensuite représenter ces fonctions par le quotient de deux séries. Cette idée fut parfaitement consciente et réfléchie. L'analogie avec les fonctions elliptiques me guidait. Je me demandais quelles devaient être les propriétés de ces séries si elles existaient, et j'arrivais sans difficulté à former les séries que j'ai appelées thétafouxiennes. À ce moment, je quittais Caen, que j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marche-pied, l'idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification, je n'en aurais pas eu le temps, puisque à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée. Mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Je me mis alors à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Étant revenu à Caen, je réfléchis sur ce résultat et j'en tirai les conséquences. L'exemple des formes quadratiques me montrait qu'il y a des groupes fuchsiens autres que ceux qui correspondent à la série hypergéométrique. Je vis que je pouvais leur appliquer la théorie des séries thétafouxiennes et que par conséquent il existe des fonctions fuchsiennes autres que celles qui dérivent la série hypergéométrique. Les seules que je connus jusqu'alors. Je me proposai naturellement de former toutes ces fonctions. J'en fis un siège systématique et j'enlevai l'un après l'autre tous les ouvrages avancés. Il y en avait un cependant qui tenait encore et dont la chute devait entraîner celle du corps de place. Mais tous mes efforts ne servirent d'abord qu'à me mieux faire connaître la difficulté, ce qui était déjà quelque chose. Tout ce travail fut parfaitement conscient. Là-dessus, je partis pour le mont Valérien où je devais faire mon service militaire. J'eus donc des préoccupations très différentes. Un jour, en traversant le boulevard, la solution de la difficulté qui m'avait arrêté m'apparut tout à coup. Je ne cherchais pas à l'approfondir immédiatement, et ce fut seulement après mon service que je repris la question. J'avais tous les éléments, je n'avais qu'à les rassembler et à les ordonner. Je rédigeai donc mon mémoire définitif d'un trait et sans aucune peine. Quelques commentaires. Premièrement, ce que nous décrit Poincaré, c'est assez épique. Hein, il se bat avec le problème, il y réfléchit, il y passe des nuits, des jours, ça va, ça vient. Et en même temps, c'est pas un travail acharné continu. C'est irrégulier. C'est une alternance de réflexion soutenue, de relâchement et d'illumination subite qui se répète. Trois fois ça arrive là dans le texte qu'il nous décrit. Il réfléchit, puis il bute et puis un jour, paf, la solution arrive. Puis il réfléchit encore et ainsi de suite. Deuxièmement, ces illuminations, elles arrivent quand? La réponse, c'est n'importe quand. Promenade dans un bus, marchant sur une falaise, en traversant un boulevard, sans que ça ait le moindre rapport avec le problème auquel il réfléchit. Comme on dit, c'est à l'intérieur que se passe le boulot, et de temps en temps, après ce travail d'imprégnation, où vous êtes tout entier dans le problème, ben, il peut y avoir partie consciente qui reçoit un coup de fil de la partie inconsciente de votre cerveau. Remarque suivante, la façon dont il décrit ses recherches, avec des analogies qui sont empruntées au registre militaire pour certaines d'entre elles. Registre fréquent pour décrire les problèmes auxquels on s'attaque. Hein, il parle de corps de place, il parle de siège. L'autre domaine majeur dans lequel on tire nos analogies, c'est l'architecture. Parce qu'une preuve, elle se construit avec des choses qui s'appuient les unes sur les autres. Remarque suivante, correspondant au hasard des choses, au hasard de la découverte, il nous dit par exemple qu'il se met à travailler sur un sujet, et puis sur un autre sujet, sans penser qu'il y a le moindre rapport. Et puis un jour, il découvre qu'en fait, les deux sont très liés. Ça, on connaît bien. Ce qu'on connaît bien aussi en recherche, c'est quand vous travaillez sur un truc et vous mettez à trouver quelque chose d'autre. Par beaucoup de sérendipité pour ça. Et donc un processus très difficile à prédire. Dernière remarque, pour décrire son travail, Poincaré n'hésite pas à employer les mots crus, comme les formes quadratiques, dégénérées, ternaires ou ce que vous voulez. Ternaires indéfinies. Et il ne fait aucun effort pour expliquer de quoi il s'agit. Et comme il nous l'explique bien, c'est fait exprès. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le texte a eu du succès et a été très très commenté. Si Poincaré avait essayé d'expliquer ce sur quoi il travaillait, il aurait perdu, même avec de la bonne volonté et de la pédagogie, au moins 95% de son auditoire. Tandis que là, il dit, ok, voici les mots, et le fait qu'il emploie les mots barbares, comme il dit, fait qu'on n'essaye même pas de chercher de quoi il s'agit. Et alors, j'ai moi-même, à peu près un siècle après Poincaré, sans m'en rendre compte, repris le même procédé dans mon ouvrage Théorème vivant, où je raconte la vie du mathématicien, ma vie de recherche pendant les 2 années où je me battais contre le problème de l'amortissement Landau avec mon collègue et ancien élève Clément Mouhot. Et un récit épique où on passe son temps à sécher, à s'acharner sur des problèmes, à avoir telle ou telle illumination, à faire des erreurs sans arrêt et ainsi de suite. Et où j'ai mis les mots barbares sans même donner le début d'une explication pour que le lecteur, la lectrice, cherche même pas à comprendre de quoi il est question. Une notion synthétique de courbure de Ricci minorée dans les espaces métriques mesurés, complets et localement compacts, et ainsi de suite. Parce que on peut pas tout faire à la fois. Si vous concentrez sur le fond, le travail mathématique, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur les circonstances, comment ça se passe. Et même de la même façon que Poincaré, ici c'est un travail où je cherchais à parler juste des circonstances, le processus de création. Dans ces créations, il y a toujours beaucoup d'erreurs. Et Poincaré nous parle aussi de l'erreur en des termes intéressants. Un premier fait doit nous étonner, ou plutôt devrait nous étonner si nous n'y étions si habitués. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas les mathématiques? Vous serez d'accord avec moi, c'est un scandale. Alors évidemment, Poincaré n'entend pas juste au sens « ouais, ils sont bêtes, ils comprennent pas les mathématiques et tout ». Il veut dire « quand même, réfléchissons-y ». Cerveau humain, c'est bizarre. En mathématiques, une démonstration, je sais pas, ni géométrie du triangle toute bête, il s'agit d'enchaîner 3-4 arguments logiques. Pour vérifier ça, il faut vérifier si, donc, alors, et ainsi de suite. Ça devrait être tout simple. Et en pratique, c'est dur. Alors que, sans arrêt, dans la vie, on enchaîne des informations, on les met en place quand on a des conversations, des interactions avec les gens, qui font intervenir des dizaines d'étapes différentes qui sont beaucoup plus irrationnelles, beaucoup plus difficiles à vérifier, et on sait le faire. Si les mathématiques n'invoquent que les règles de la logique, celles qui sont acceptées par tous les esprits bienfaits, comment se fait-il qu'il y ait tant de personnes qui soient totalement réfractaires ? Et il y a plus, comment l'erreur est-elle possible en mathématiques ? Est-il nécessaire d'ajouter que les bons mathématiciens eux-mêmes ne sont pas infaillibles ? Alors là, quand il parle Poincaré, il sait, il est légitime parce que des erreurs, il en a fait des retentissantes. Et on va en parler. On va se ramener en 1887, à une époque où Poincaré, alors on se remet en tête, il est né en 1854, donc en 1887, ça lui fait 32, très bien. Et le voici qui surplonge dans un problème ancien, très étudié et toujours d'actualité à l'époque. Stabilité du système solaire, peut-être le plus ancien de tous les problèmes de physique mathématique. Posé par Isaac Newton dans les années 1670, on connaît la loi de la gravitation entre les planètes, on sait évaluer l'interaction entre le Soleil et les planètes et ce que ça implique, mais il y a aussi l'interaction gravitationnelle entre les planètes, par exemple l'attraction de Mars sur la Terre, qui sont petites, mais qui, sur le long terme, pourrait entraîner des catastrophes, peut-être. Les interactions entre planètes sont-elles suffisantes pour déstabiliser, sur le long terme, le système solaire ? C'est la question que pose Newton. Et en 1887, on est toujours loin d'avoir résolu cette question, mais on a des résultats partiels, en particulier grâce aux travaux extraordinaires des mathématiciens et astronomes de la fin du XVIIIe siècle, en France et en Allemagne. Lagrange et Laplace, en France, qui sont allés plus loin que n'importe qui sur la question. Gauss, qui a réalisé des travaux remarquables sur le sujet aussi. Et leur conclusion, c'est que, en gros, le système solaire est stable pour au moins 1 million d'années. Un résultat extraordinaire pour l'époque. Obtenu juste en regardant les équations dans le blanc des yeux et en travaillant dessus. Mais 1 million d'années, c'est beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut dire au-delà ? 1 milliard d'années, qu'est-ce qui va se passer ? 2 milliards d'années, qui sait quoi ? Bon. Et on sait que ça fait partie des problèmes célèbres. C'est ce que choisit de traiter Poincaré pour le concours du roi Oscar. Concours qui a été mis en place à l'instigation de Gustav Mittag-Leffler, un ami de Poincaré et le plus grand mathématicien suédois de l'époque. Oscar II de Suède était son protecteur et avait donc donné son nom à ce concours qui était richement doté. Poincaré concourt en proposant une solution de ce problème de stabilité. Du moins, il ne va pas traiter un système solaire complet, c'est trop compliqué, mais un modèle réduit, tout simple, dit problème des trois corps. Un soleil, une planète, un petit satellite. Est-ce que ça, c'est stable pour tous les temps ? On ne peut pas résoudre ce problème exactement, mais on peut l'étudier qualitativement. Et Poincaré donne un résultat selon lequel, sous certaines conditions, ce système est stable pour tous les temps. Et que les interactions entre le petit satellite et la planète sont pas suffisantes pour déstabiliser. Voici le manuscrit soumis au concours. Le, dans sa version, dans la, alors ici, la page que vous voyez ici sur le problème des trois corps et dans les équations de la physique, vous voyez le nom de Poincaré, mais l'information n'était pas connue du jury. Le manuscrit était anonymisé avant d'être transmis au jury. Et ce n'est pas l'écriture de Poincaré. On ne sait pas vraiment qui c'est sans doute la femme de Poincaré qui a rédigé le manuscrit. Et même malgré ça, le jury avait eu aucun mal à détecter que c'était Poincaré lui-même. Il avait un style très reconnaissable, et puis c'était d'une audace conceptuelle telle qu'il y avait très peu de gens qui pouvaient avoir fait ça. Poincaré gagne donc le prix haut la main et reçoit la fortune et la gloire. Oui, cette jolie écriture. L'article se retrouve publié dans Acta Mathematica, la revue de Gustav Mittag-Leffler, qui ambitionnait d'en faire l'une des plus grandes revues de mathématiques du monde. Encore aujourd'hui, Acta Mathematica est l'une des deux ou trois meilleures revues de mathématiques du monde. C'était pas une sinécure de publier du Poincaré, parce que c'était écrit de façon un peu brouillonne. Hein, des arguments difficiles à comprendre, des définitions un peu mouvantes. Et celui qui s'y est collé, c'est un jeune mathématicien suédois, Lars Fragmén. Le travail, vous voyez, de tout relire, d'envoyer les commentaires à l'auteur, il faudrait réécrire ça, il y a un truc qui n'est pas assez précis, etc., etc. Poincaré corrige tout, et puis finalement le manuscrit paraît. Et puis, un jour, Poincaré se rend compte, mince, que l'une des objections de Fragmén, il ne l'a pas prise assez au sérieux. Il a corrigé, mais quand même. Et finalement, il y a une faute de raisonnement dans la démonstration d'un résultat intermédiaire dans son article. Mais finalement, la faute de raisonnement, elle fait s'écrouler toute une partie de l'article. Et finalement, elle fait que tout l'article est faux. Et c'était embêtant. Imaginez, votre article est faux, vous avez gagné le prix avec cet article, vous avez reçu plein d'argent, il y a votre nom partout dans les journaux, Poincaré, etc., et tout est faux. Ah, très très embêtant. Il en fallait plus pour décontenancer Mittag-Leffler. Il s'est occupé de récupérer tous les exemplaires de l'article. On l'imagine bien écrivant à ses copains à travers le monde, renvoie-moi l'article, je t'enverrai une nouvelle version, il y a une coquille, ouais, il y a une petite coquille, c'est pas grave, bon, c'est rien. Bon, il récupère tout. On ne les retrouve plus évidemment dans la bibliothèque, cet article. Il s'est conservé à l'Institut Mittag-Leffler avec une petite mention autographe de Mittag-Leffler lui-même, vous voyez ML, qui nous dit que tous les autres exemplaires ont été détruits. Poincaré a tout payé. Ça lui a coûté plus que l'argent qu'il avait reçu du roi Oscar. Et puis il s'est remis à travailler pour réparer son honneur. Là, il a vraiment tout mis en œuvre, travaillé jour et nuit, pendant les vacances et tout, jusqu'à ce qu'il resoumette le manuscrit, tout corrigé, et cette fois-ci dans son écriture et son style bien brouillon. Et cette fois, c'était juste. Petit changement quand même. Au lieu de montrer la stabilité, il montre l'instabilité. Et analysé en détail son erreur et compris que là où il pensait que c'était sous contrôle, en fait, il y avait un trou béant et que dans ce trou béant, il y avait un abîme qui était très fécond. On appelle ça les intersections homoclines. Vous vous souvenez tout à l'heure, avec les équations différentielles, je vous expliquais l'équation, on peut le voir avec les formules, mais il y a aussi une façon de le représenter géométrique. Et c'est comme ça, géométriquement, que Poincaré avait cherché à traiter la stabilité du système solaire. Et si vous voulez, les courbes que vous voyez là, qui sont représentées, ça correspond, dans son étude, aux états asymptotiques du système. La courbe blanche, les états correspondent aux états dans le futur lointain. La courbe rouge, les états dans le passé lointain. Et il cherche, quand les deux courbes se coupent, se rencontrent, ça correspond à une position de stabilité. où l'état dans le futur et l'état dans le passé sont les mêmes. Et Poincaré a cru montrer, par un raisonnement mathématique assez subtil, que les deux courbes finalement étaient confondues, identiques, de sorte qu'il y avait toujours stabilité. En fait, il y a une erreur. C'est facile de dire après coup, mais quand on analyse les choses, on voit que c'est une erreur de débutant. Il devait envisager plusieurs cas. Il a bien envisagé deux cas, mais il n'a pas vu le troisième, où il pensait que c'était impossible parce que en dimension 2, c'était impossible. En fait, il était en dimension 3, il ne s'est pas rendu compte. Enfin, bon, il a loupé quelque chose, et le quelque chose met tout le raisonnement par terre. Et ce qu'il découvre Poincaré, c'est qu'en fait, c'est très dur de trouver les intersections des courbes, les points de stabilité. C'est très dur et ces points de stabilité sont rares en un certain sens. Les deux courbes, vous voyez là, la blanche et la rouge, là, elles ont l'air assez simples. En vrai, elles ressemblent à ça. C'est ce que dit Poincaré à leur sujet. Que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux courbes, leurs intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à mailles infiniment serrées. Chacune de ces courbes ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier elle-même d'une manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé de la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. En clair, voyez, si les intersections correspondent à de la stabilité, des points d'intersection, mais stabilité, mais dès qu'on s'écarte un tout petit peu, on peut se retrouver sur de l'instabilité. Et finalement, ce que Poincaré a découvert, c'est le phénomène de sensibilité aux conditions initiales. Vous avez un système qui est dans un certain état, et peut-être qu'il va évoluer de façon stable, mais il suffirait une toute petite pichenette pour le mettre dans une configuration instable. Il y a un nom qu'on utilise pour ça, maintenant, dans la popularisation scientifique, c'est l'effet papillon, merci. Effet papillon. Et c'est le mot vient de travaux de l'œuvre de Edward Lorenz, un spécialiste de météorologie américain, qui redécouvre ce phénomène de sensibilité aux conditions initiales et dit ben, les équations de la météo, elles sont assez instables. Il suffirait une toute petite variation pour qu'un ouragan se forme là où c'était pas prévu. Peut-être si un papillon se met à battre de l'aile au-dessus de l'Amazonie, ça déclenchera par une cascade d'événements et d'implications qu'il y aura un ouragan au-dessus de la Russie quelque temps plus tard. Poincaré est le premier, avec Jacques Adamard, son contemporain, à découvrir et à formaliser ce phénomène de sensibilité aux conditions initiales, l'un des piliers conceptuels de la théorie du chaos. Voici le système de Lorentz, qui sera l'un des problèmes emblématiques dans cette théorie du chaos. Petit système tout bête de trois équations, trois inconnues, x, y et z, qui représentent l'état d'un certain écoulement fluide simplifié. Trois paramètres, sigma, R et B. Lorentz est arrivé à ce système en simplifiant ses équations. Et il s'est demandé qu'est-ce que ça fait ça. Et il a découvert, à sa grande surprise, que c'était un comportement très, très complexe. D'abord, il y a une figure, toujours dans l'espace géométrique des états possibles, qu'on appelle maintenant l'attracteur de Lorentz, cette espèce de 8 là, qui attire très vite les solutions. Vous partez de n'importe où, mettons dans cet état initialement, très vite, le système va s'approcher au plus près de cette espèce de figure avec une structure un peu comme les anneaux de Saturne, vous voyez, très effinée, très affinée. Et ensuite, ça va se balader, le système va se balader au voisinage de ces structures d'une façon très difficile à prédire. Plutôt, il suffirait que ça soit parti juste à côté, une configuration très différente pour que le mouvement soit différent au bout d'un certain temps. On va le regarder. Toujours extrait de ce livre de Chazotte et Monticelli. Donc on va prendre deux points dans l'espace des possibles, point rouge, point jaune. Ils seront très proches au départ, et puis on va voir comment ça évolue à partir de cette configuration. Et on va commencer par tourner un peu cet attracteur de Lorentz pour voir à quoi il ressemble, en changeant le point de vue. Et ensuite on va prendre nos deux points, jaune et rouge, et les mettre dans une configuration initiale. Regardez, ça va très vite s'approcher de l'attracteur de Lorentz. Voilà, tellement vite qu'on a l'impression qu'il a sauté. Et puis ensuite, ça tourne le long des boucles. Jusque-là, les deux particules sont très très proches. Et vous voyez sur la courbe ici, on voit les positions d'une certaine composante de la particule rouge et de la particule jaune. C'est indiscernable quasiment. Ah, et puis là, ça y est. Là, on voit que ça se discerne. On voit aussi qu'elles se sont séparées. Là, elles se sont séparées beaucoup maintenant. Et maintenant, il n'y a plus de rapport entre les deux trajectoires qu'on peut voir. C'est ça la sensibilité aux conditions initiales. Vous changez la configuration initiale d'un millimètre et l'état dans le futur lointain est complètement différent. Ça, c'est, pour le voir en équation, Lorentz, lui, avait une autre façon de parler de la sensibilité aux conditions initiales. Il utilisait ça dans les conférences parfois. Je vais vous montrer. Prenez votre feuille de papier et puis vous la laissez comme ça à l'horizontale. Vous la laissez tomber. Une fois, ça va venir ici. Vous recommencez en la mettant exactement dans la même position. Un endroit différent. Encore une fois. Et ça sera encore différent. Voilà, sensibilité aux conditions initiales. Pourtant, il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Mais juste, ça dépend tellement de la condition. Alors, pour autant, la théorie du chaos ne se borne pas à dire que les choses sont imprédictibles. D'abord, elle est quantitative, elle vous dit à quelle vitesse l'incertitude augmente. Et ensuite et surtout, elle vient avec une prédictibilité statistique. C'est-à-dire, même si on ne sait pas exactement ce que va faire le système, on peut faire des calculs de pourcentage. Tant de pourcents de chance comme ceci, tant de pourcents comme cela, et c'est robuste par rapport à la condition initiale, par rapport au choix de la condition. Et c'est même robuste par rapport à l'équation elle-même. Si je modifie un tout petit peu l'équation, ça ne va pas changer grand-chose. C'est ce que disait Poincaré. Sur ce rôle bénéfique du hasard. C'est grâce au hasard, c'est-à-dire grâce à notre ignorance, que nous pouvons conclure. Vous me demandez de vous prédire les phénomènes qui vont se produire. Si par malheur je connaissais les lois de ces phénomènes, je ne pourrais y arriver que par des calculs inextricables. Et je devrais renoncer à vous répondre. Mais comme j'ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre tout de suite. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ma réponse sera juste. Oui, un petit peu d'arrogance là. Lorentz nous en parle aussi de la même façon, il nous parle d'effet papillon, et c'est impossible de dire s'il va y avoir un ouragan ici et là, mais statistiquement, on peut faire des prédictions. J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. Est-ce qu'il y a un effet papillon, vraiment, en météo? On en débat toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le système solaire, oui, ça a été prouvé par des simulations informatiques à partir des années 80 par des gens comme Jacques Lascar en France ou Scott Tremaine au Canada, aux États-Unis. Les résultats les plus récents montrent que le système solaire est imprédictible au-delà de seulement 60 millions d'années. Et même, il y a quelque chose de tout petit qui joue un rôle déstabilisant. Ce sont les deux astéroïdes Cérès et Vesta, deux des plus gros astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils sont tout petits, hein. À l'échelle du Soleil, c'est comme des papillons, à peu près un milliardième de la masse du Soleil. Mais il suffit que Cérès se rapproche de Vesta de quelques centimètres à un moment pour que ça ait une influence sur la position de la Terre 60 millions d'années plus tard. Influence notable. Et pourtant, malgré cette instabilité, on peut faire des statistiques et voir qu'il y aura tel pourcentage, telle probabilité que la Terre soit comme ceci, telle probabilité qu'elle soit comme cela. Et on peut le voir, ça n'a pas été simple de faire émerger cette vision, théorie du chaos, on a vu toutes les errances de Poincaré, mais finalement, il avait raison. Il avait raison et on parle à ce sujet d'une erreur féconde. On va maintenant regarder une erreur qui a été un peu moins féconde. Qui s'inscrivait dans un autre problème de physique mathématique. Vous vous souvenez de Poincaré, double casquette de mathématicien et de physicien. Ici, il s'agissait d'une révolution conceptuelle du 19e siècle, la physique statistique, dont les deux héros étaient James Clerk Maxwell l'Écossais, Ludwig Boltzmann, l'Autrichien, deux des meilleurs physiciens de son temps, Maxwell, un des plus grands de tous les temps, un cerveau surhumain, Boltzmann, moins génial, mais qui a eu le flair de découvrir certains des concepts les plus importants de toute la physique, en particulier la fondamentale notion d'entropie ou désordre microscopique. Boltzmann, le voici en jeune scientifique conquérant, le voici en vieux scientifique tourmenté. Le temps l'a marqué durement et c'est un peu... Oui, il a terminé malade, il s'est suicidé. C'est un peu une triste ironie quand on sait que Boltzmann précisément a travaillé sur le temps, le vieillissement, avec l'ambition d'expliquer par la physique atomique la sensation d'écoulement irréversible du temps. Dans la vision atomiste du monde, qui à cette époque, en 1860, était considérée par beaucoup comme une rêverie, on imagine que on modélise un gaz, par exemple, comme une assemblée de molécules qui se cognent les unes contre les autres. Ces molécules obéissent aux lois de la physique classique, à la Newton. Mais comme il y en a tellement, c'est un gigantesque billard difficile à prédire et ça donne des conséquences très particulières. On ne cherche pas dans cette théorie à garder la trace des positions, des vitesses, de l'évolution de toutes les particules. On s'intéresse juste à une distribution statistique qui nous parle de la répartition des positions et des vitesses des particules. De la même façon que quand on fait de la démographie, on ne cherche pas à comprendre les âges et la situation familiale de tous les individus d'une population. On s'intéresse à une pyramide des âges. On cherche comment elle va évoluer. Et c'est là-dessus que travaillent Maxwell et Boltzmann et qu'ils ont mis au point l'équation principale, dite équation de Boltzmann, qui vous dit comment va évoluer la statistique des particules qui composent le gaz. Trois termes dans cette équation. Le premier, c'est la variation de F. Est-ce que ça tend à augmenter ou à descendre ? Un second, c'est le terme de transport qui traduit le fait que les particules ont envie de se déplacer en ligne droite jusqu'à ce qu'elles rencontrent des obstacles. Un troisième, c'est le terme de collision qui vous dit ce qui se passe quand des particules entrent en collision et que les deux vitesses qui étaient présentes avant disparaissent au profit de nouvelles vitesses et qu'il faut en tenir compte dans les statistiques, mettre à jour. Voici l'opérateur de collision de Boltzmann, réputé comme... assez complexe, même par les spécialistes. Et je vous garantis que la première fois que mon futur directeur de thèse l'a écrite pour moi, sur un coin de table dans un café, en me disant que j'allais pouvoir avoir la chance de travailler là-dessus pendant quelques années, je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer de sujet. Cette équation, comment on l'établit ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est la bonne équation à regarder ? Il y a deux possibilités. Soit vous faites, comme je vous l'ai dit, comme un modélisateur, un physicien, et vous argumentez. Les particules, elles ont tendance à se placer en ligne droite, donc ça va être comme ceci, mais de temps en temps, elles entrent en collision, alors il faut tenir compte, enlever les vitesses, les rajouter. Voilà. On appelle ça un raisonnement de modélisation qui vous permet de faire correspondre à un phénomène réel une équation abstraite. Et puis, il y a une autre approche qui consiste à dire que cette équation, qui est une équation statistique, portant sur un grand nombre de particules, on doit pouvoir la déduire des lois microscopiques qui régissent ces particules, prises comme un axiome, si vous voulez. C'est ce que propose David Hilbert, le grand mathématicien allemand, dans l'un des 23 problèmes qu'il énonce publiquement en 1900 au Congrès international des mathématiciens à Paris. Le livre de M. Boltzmann sur les principes de la mécanique nous incite à établir et à discuter du point de vue mathématique d'une manière complète et rigoureuse les méthodes basées sur l'idée de passage à la limite et qui, de la conception atomique, nous conduisent aux lois du mouvement des continua. Autrement dit, vous partez des atomes, vous écrivez les équations du mouvement des atomes, grande équation différentielle, et puis vous regardez ce qui se passe quand vous intéressez aux statistiques et que vous passez à la limite où le nombre de particules tend vers l'infini, en même temps que la taille des particules tend vers zéro. Parce qu'à notre échelle, les particules, elles sont juste microscopiques et en nombre considérable. Ça s'applique à l'équation de Boltzmann, mais à toutes les grandes équations qui régissent la matière à notre échelle macroscopique. Les équations, ici vous avez l'équation de Vlasov, équation des plasmas. À droite, en haut, c'est l'équation de la chaleur. En bas, l'équation de mécanique des fluides, équation de Navier-Stokes compressible. Toutes ces équations, vous pouvez soit les établir par des raisonnements, par analogie, soit essayer de les déduire du mouvement des atomes. Et cette deuxième approche est largement ouverte. Ce sont des grands problèmes ouverts, toujours des mystères. Les équations s'appliquent bien en pratique, mais ne sont pas démontrées. Dans le cadre de l'équation de Boltzmann, on a une motivation particulière pour effectuer cette démonstration parce que la théorie, elle a certains paradoxes, ou du moins des choses étranges. Et d'abord, le résultat le plus célèbre de Boltzmann, dit théorème H, c'est rare qu'un physicien laisse son nom à un théorème, mais c'est le cas de Boltzmann, parce que c'était vraiment bâti sur une argumentation mathématique. Théorème H, ou augmentation spontanée de l'entropie d'un gaz. L'entropie, ça mesure le désordre, la difficulté que vous avez à connaître l'état des particules, par exemple, d'un gaz. Si les particules sont toutes dans un coin de la boîte bien rangées, l'entropie est basse. Si elles sont très étalées, désordonnées, l'entropie est élevée. Et Boltzmann, il y a une formule pour calculer l'entropie. Et Boltzmann montre que cette formule, spontanément, elle augmente avec le temps, sur la base de son équation. Autrement dit, la façon populaire de le dire, c'est que si vous mettez un gaz dans une boîte, même si au début le gaz est très ordonné, spontanément il va se désordonner. Sous l'effet de collision microscopique aléatoire, donc. On va regarder ça sur une simulation numérique. On va pas prendre un milliard de particules comme ça serait le cas en vrai, mais juste une centaine de boules de billard. Un billard parfait, sans frottement. Au début, là, je triche, dans un gaz, ça peut pas être comme ça à l'état initial, parce que les particules vont être très désordonnées, même dans leur position. On va prendre des positions ordonnées, et on va tout de suite désordonner cette figure en leur assignant des vitesses aléatoires. Et on va regarder l'évolution, et ça nous donnera un peu une idée de ce qui se passe quand un gaz, au départ ordonné, évolue. Regardez. Alors si on suit une particule des yeux, on voit que c'est vraiment chaotique, ça change brusquement de comportement. Mais globalement, si on regarde l'ensemble du gaz, on voit que globalement on remplit à peu près tout et que ça reste comme ça. On est passé d'une situation où le gaz était confiné à une situation où le gaz est répandu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cette affaire-là? Qui dit croissance de l'entropie dit qu'il y a un avant et un après, de l'ordre vers le désordre. Donc une flèche du temps. Mais dans les équations de Newton, on la chercherait en vain, cette flèche du temps. Quand on regarde les équations vers le passé ou vers le futur, c'est la même chose. Alors, d'un côté, on a ce phénomène irréversible de la croissance du désordre. De l'autre côté, la mécanique microscopique ne subit pas la flèche du temps. Est-ce qu'il n'y a pas alors un problème dans le raisonnement si on a en tête que l'équation de Boltzmann se déduit des équations microscopiques? Pour se convaincre de la réversibilité, faisons un petit zoom sur une petite partie du billard. C'est le film que vous avez vu tout à l'heure. On en voit une petite partie, mais c'est joué à l'endroit dans une des fenêtres, à l'envers dans l'autre. Je me défie de me dire laquelle est celle qui est jouée à l'endroit et laquelle est celle qui est jouée à l'envers. Ça, c'est quand on regarde microscopiquement. Mais quand on regarde macroscopiquement, il y a une évolution. Et je pense que vous arriverez facilement, ça c'est pour un billard avec un peu plus de boules, à reconstituer l'ordre dans lequel ces images ont été prises. Ouais, toi t'arrives? C'est bien. C'est laquelle la première? C'est celle-là la première, absolument. La deuxième? En haut à gauche, absolument. La troisième. En haut à droite. Et puis finalement, la celle-là. Bravo. On applaudit, je crois. Ici, je les ai remises dans l'ordre. Et donc, ouais, du point de vue macroscopique, il y a cette irréversibilité. Et si nos yeux étaient sensibles à l'entropie, on pourrait remettre comme ça les films dans l'ordre. Bon. Alors, il y a quand même quelque chose d'étrange. Et que pense Poincaré de ce problème ? 1893, petit article, Le mécanisme et l'expérience, où il nous dit « Un théorème facile à établir » il est un peu modeste, c'est son théorème à lui, théorème de récurrence de Poincaré, nous apprend qu'un monde limité, soumis aux seules lois de la mécanique, repassera toujours par un état très voisin de son état initial. C'est un système mécanique, parti d'une condition initiale, vous laissez évoluer, viendra un moment où il reviendra au point de départ, ou presque. Au contraire, d'après les lois expérimentales admises, l'univers tend vers un certain état final dont il ne pourra plus sortir. Et c'est ça qu'il dit. Les lois expérimentales montrent que on ne revient pas vers l'état initial. Il y a une, on va s'installer dans un état très désordonné, comme il parle, état final, on n'en sort plus. Et donc, il utilise cet argument pour dire qu'il semble y avoir une impossibilité dans la démarche de Boltzmann, une contradiction. L'un des collègues et adversaires de Boltzmann, Zermelot, va formaliser cette objection de Poincaré pour dire qu'il y a un problème. Et il vous dit, voilà, on parle d'une configuration ordonnée, c'est le désordre, etc. Mais on sait bien que si on attend suffisamment longtemps, ça va revenir à la position de départ. Après un temps très long, c'est ça qu'on observera. Et ça, c'est un théorème, c'est vrai. Mais ce que répond Boltzmann, c'est que c'est pas pertinent. Parce que il faudrait attendre un temps tellement gigantesque qu'il n'a pas de sens physique. On l'observerait jamais en pratique. Et c'est vrai. Si vous voulez attendre que le, même si les lois de la mécanique newtonienne étaient strictement vérifiées, encore c'est pas vraiment le cas, pour attendre avant que le gaz revienne spontanément dans la partie droite de la boîte, ça serait des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. C'est pas le seul paradoxe qu'on envoie à Boltzmann en lui disant un truc qui cloche. Celui-ci, mis au point par Loschmidt, pour le coup, un autre partisan de la théorie atomique, qui dit, il y a un problème conceptuel. Repartons du billard, laissons le gaz évoluer, et puis l'entropie augmente, et à un moment, on va arrêter le gaz, geler tout, et puis renverser les vitesses. Vous voyez, alors on laisse le gaz s'activer. Et puis, à un moment, on arrête. On regarde les vitesses. Expérience de pensée, renversons-les. Ok ? C'était comme ça, ça devient comme ça. Vous êtes d'accord avec moi que renverser les vitesses, ça ne va pas changer le désordre du gaz. Donc l'entropie va rester la même. Et maintenant, on laisse le gaz repartir avec ses nouvelles vitesses. Si c'est bien l'équation de Boltzmann qui continue à régir ce système, l'entropie devrait continuer à augmenter. Mais si j'y pense d'un point de vue microscopique, renverser la vitesse, c'est comme renvoyer les particules d'où elles viennent, et donc petit à petit, ça va refaire le trajet inverse jusqu'au moment où on verra les particules revenir à leur position initiale. Et donc l'entropie aura baissé. Alors est-ce qu'il n'y a pas un problème, une contradiction ? On dit que Boltzmann, confronté à cette objection, a dit « Vas-y, renverse-les, allez, pas cap. » Parce qu'évidemment, derrière, des choses délicates, comment réaliser une opération microscopique telle que le renversement de vitesse avec nos moyens macroscopiques ? Comme vous voyez, il y a des subtilités. Et même si on arrive, même si Boltzmann arrive à répondre au paradoxe, ça convainc pas tout le monde. Poincaré n'est pas convaincu. Il n'est pas besoin d'un long examen pour se défier d'un raisonnement où les prémices, c'est-à-dire les hypothèses de départ, sont en contradiction au moins apparente avec la conclusion, où on trouve en effet la réversibilité dans les prémices et l'irréversibilité dans la conclusion. Ainsi, l'on n'est pas arrivé à tourner la difficulté qui nous occupe, et il est peu probable qu'on n'y parvienne jamais. Alors, vous savez, comme on dit, il faut jamais dire jamais. Toujours quelqu'un qui peut arriver un jour et qui va vous mettre en défaut, rien que pour prouver que vous aviez tort. Et ça n'a pas manqué. Dans les années 1970, Carlo Cercignani développe les idées de Harold Grad pour esquisser une démonstration rigoureuse de ce programme de Hilbert selon lequel on passerait des lois atomiques, des lois du mouvement des atomes, aux lois de Boltzmann. Il n'avait pas la démonstration, mais il montre qu'il n'y a pas de contradiction et qu'on devrait pouvoir le faire en utilisant bien le statistique et la notion de passage à la limite. Et peu de temps après, indépendamment, Oscar Lanford la donne, cette démonstration. Théorème complexe, peut-être l'un des plus importants, peut-être le plus important à toute la théorie statistique, revu et corrigé par nombreux auteurs, des chercheurs et des chercheuses, théorème très subtil. Qui vous dit quoi? Si vous prenez n boules où n est grand, vous choisissez au hasard ces boules qui ont chacun le même rayon R dans un espace à trois dimensions. La position et la vitesse de ces particules est choisie aléatoirement, toutes indépendamment et selon une même loi. Alors, dans la limite où le nombre de particules tend vers l'infini, le rayon tend vers zéro, de telle sorte que le produit du nombre de particules par le carré du rayon tend vers un nombre fixé, la distribution statistique des boules évolue au cours du temps selon l'équation de Boltzmann. Ça, c'est un théorème. Il ne résout pas tout. Loin de là, il en reste du grain à moudre. Pour les amateurs, il mène à nombreuses questions, en particulier la compréhension de la propagation du chaos, moteur du pont entre les lois microscopiques et les lois statistiques. Beaucoup d'interrogations, mais au moins il établit ce pont rigoureux entre le monde microscopique et le monde macroscopique que Poincaré pensait impossible. Finalement, ici, Poincaré avait tort. On ne va pas lui en tenir rigueur. C'est important d'affronter le risque de l'erreur, sans quoi vous faites jamais rien de bon. Et si Poincaré a fait de grandes erreurs, c'était à la mesure de son ambition et de son génie qui lui a fait faire des contributions dans tant de domaines scientifiques. Des contributions révolutionnaires. Et voilà, je vous remercie. On a le temps de faire un peu quelques questions. Ouais. 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 Alors d'abord, comme on le voit dans les deux, avec les deux pires pour le coup, ça m'est arrivé une fois d'annoncer et distribuer un article dans lequel il y avait une vraie grosse belle erreur. Pas sur un résultat majeur, mais. C'était un vrai souci. Je m'en souviens comme une très forte pression pour réparer le truc. Pour réparer le truc, il a fallu vraiment trouver des nouveaux arguments. Et j'étais très fier de la solution. Et puis, la plus grosse pression, peut-être, si je raconte ça dans Théorème Vivant, quand à un moment, j'annonce dans le séminaire d'un collègue, physique statistique, la solution. J'annonce qu'on a résolu le problème sur lequel on travaillait, Clément et moi, et je donne une esquisse de la démonstration, et il m'a fallu juste quelques heures après pour comprendre que la solution ne tenait pas debout, mais vraiment pas du tout. Et en fait, on n'avait même pas identifié la moitié des ingrédients importants dans le problème. Donc là, il a fallu quelques mois pour remettre le truc sur pied. Je m'en souviens comme d'une période très, pareil, pression considérable, considérable. Donc, ouais. Bon, après, des petits, des grosses, des partout. Dans l'un de mes oraux d'agrégation, j'ai fait une énorme erreur. Je m'en suis rendu compte juste le lendemain. Je me suis dit, malheur, est-ce que le jury va avoir repéré ça, tout ça, ils vont me descendre et tout. Et puis finalement, non. Soit que j'ai été assez convaincant en essayant de leur expliquer, parce qu'il y a un membre du jury qui m'avait dit, mais là, il y a une faute. J'ai dit, non, pas du tout, faire comme ci, comme ça, comme ça. Soit j'ai été très convaincant, soit ils se sont dit, bon, allez, tant pis, c'était pas mal par ailleurs.
Oui, merci pour l'exposé déjà. J'ai une question sur le mécanisme de l'invention mathématique que vous avez un peu décrit en début de l'exposé. Je me demandais déjà, est-ce que vous, dans les résultats qui vont conduire à la médaille Fields, vous avez eu les mêmes éclairs de révélation qu'a eu Poincaré? Et ma deuxième question, c'est là, on a vu des papiers, j'avais l'impression qu'ils étaient signés par une personne qui envoyait les articles. Aujourd'hui, la recherche, c'est plusieurs personnes qui co-signent des papiers. Alors, comment ça marche, l'éclair de génie, quand en fait, c'est plusieurs personnes? Est-ce qu'il y en a un qui l'a, ou voilà, comment ça se passe?
Oui, alors, toutes ces questions se retrouvent, je ne vais pas faire de publicité, bien sûr, pour mes propres ouvrages, mais se retrouvent très bien expliquées et traitées dans Théorème vivant, édition Grasset, dans lesquelles je raconte effectivement ces éclairs. Et alors, on travaille à deux, et en l'occurrence, on se partage les éclairs. Un coup, c'est lui, un coup, c'est moi. Et parfois, c'est la combinaison des deux. Je veux dire, c'est dans la conversation, il y a un truc qui émerge parce que il y a ce que fait l'un qui se met en relation avec ce que fait l'autre. Travailler à plusieurs, ça multiplie les possibilités d'éclairs, c'est certain. En mathématiques, on travaille pas encore avec beaucoup d'auteurs. La plupart des articles sont signés par deux ou trois personnes. C'est rare qu'on fasse plus. Mais alors que dans d'autres disciplines, vous pouvez avoir facilement 5, 10 auteurs, quelques centaines dans des problèmes de physique expérimentale sur des gros instruments, et ainsi de suite. Les éclairs, ils peuvent venir un peu n'importe où, ça je l'ai observé. Je m'en souviens d'un qui a eu lieu dans une crèche parentale, hein, elle était occupée, elle m'occupait des gamins et tout. Ah, ça y est, là. Je m'en souviens d'un très spectaculaire qui a eu lieu au réveil, où genre, tac, et puis la petite voix dans la tête qui dit, faut faire comme si, d'accord. Je me souviens d'une fois où c'était en m'asseyant dans le train, il faut voir le truc, j'étais là, j'avais un exposé à donner, et puis le truc que je comptais raconter à Paris, à cette époque-là, j'habitais à Lyon, il s'avérait être faux, et puis je voulais vraiment parler de ça, et puis j'avais passé toute la soirée, une partie de ma nuit, la matinée encore, à réfléchir, mais comment il faut faire pour réparer ça, qu'est-ce qu'on va faire, j'avais tout repassé dans ma tête, et tout, et puis rien, j'arrive à la gare, mais qu'est-ce que je vais leur raconter, alors si c'est pas ça, je monte dans le train, je m'assois, au moment où je m'assois, ah, ça y est, je sais, et puis j'ai passé toutes les 2 heures du voyage en train à écrire la démonstration, dans tous ses moindres détails, et puis j'ai raconté ça, une fois arrivé. Donc, on connaît ce genre de choses, on ne veut pas dire que c'est un truc qui arrive régulièrement, mais ça arrive de temps en temps, des petites, des grandes, voilà.
Merci pour la conférence, pour ce que vous faites pour les mathématiques et tout ce que vous faites pour les sciences en général. J'ai juste une question concernant votre soutien à un homme politique. Est-ce que vous considérez que c'est une erreur? Enfin, bref.
On sait seulement a posteriori quand c'est des erreurs, hein. On en reparlera peut-être dans quelques années. Voilà. Voilà. Ouais. En politique, comme dans l'éducation, les trucs qui marchent et les trucs qui marchent pas. Et tant qu'on n'essaye pas, on sait pas ce qui marche et ce qui marche pas. En tout cas, en l'occurrence, et sur cette affaire-là, et compte tenu du contexte actuel de la présidentielle, disons que je suis sûr de mon choix. de qui je, en tout cas, je suis sûr de qui je vais soutenir. Et en particulier parce que, aussi parce que ma couleur politique depuis longtemps, c'est le fédéralisme européen. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'abandonner?
On est forcé de, bon, on travaille d'habitude sur un certain nombre de problèmes à la fois et on peut juste pas les résoudre tous. Je veux dire, un mathématicien raisonnable, dans sa carrière, il rencontre quelques dizaines ou quelques centaines de problèmes. Il n'y a juste pas de cas dans lequel on va arriver à les mener tous à bien, ceux sur lesquels on a commencé. Alors après, il y en a certains qu'on va, dans lesquels on va mettre plus ou moins d'investissement. Ça m'est jamais arrivé, par exemple, de me lancer pendant plusieurs mois à fond sur un problème et de l'abandonner. Mais des fois, ça passe pas loin. Hein, par exemple, quand je reviens à ce problème de physique des plasmas, raconté dans cet excellent livre que j'évoquais tout à l'heure, il y a le moment où c'est comme en cordée, il y en a un qui est prêt d'abandonner, mais l'autre non, on continue, et puis des fois c'est l'inverse. Et il y a un moment qui en rétrospectivement était assez dramatique, où après plusieurs mois passés à travailler sur le sujet, mon collaborateur juste se décide qu'il peut pas, qu'il faut abandonner parce que c'est juste trop dur et que on n'y arrive pas, et que notre méthode n'a pas de chance d'aboutir. Bon, vu tout l'investissement qu'on y avait mis, c'était une décision dure. Il y avait déjà un long article écrit, mais qui tenait pas debout, et ainsi de suite. Et il décide finalement, il va m'écrire, il commence à écrire le message où il explique pourquoi il abandonne. Il écrit cet email, et puis comme il sait que c'est dur, il écrit un long email bien argumenté pour m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'espoir. Oh, si on essaye ça, ceci, on a essayé comme ça, mais ça n'a pas marché, etc. Et c'est en écrivant cet email qu'il a compris comment il fallait faire. D'ailleurs, ça c'est un truc à savoir. Quand vous voulez... si vous voulez vraiment vous convaincre qu'un truc est pas vrai ou quelque chose comme ça, expliquez à quelqu'un d'autre pourquoi le truc est pas vrai, et si ça se trouve, en expliquant, vous comprendrez mieux que finalement il y a une possibilité.
Est-ce que les mathématiciens travaillent beaucoup et essentiellement entre eux, ou est-ce que vous avez aussi beaucoup d'échanges avec les physiciens, et de quelle façon?
Ah, c'est très variable, la communauté. Alors, communauté des mathématiciens, c'est une des communautés les plus bavardes qui soit. Ils passent leur temps à parler, écouter. Du temps que j'étais plongé presque à temps plein dans des activités de recherche à l'École normale supérieure de Lyon, je me faisais mes 4 à 5 séminaires par semaine, ce qui veut dire que je passais au moins 4 à 5 heures par semaine à écouter ce que disaient, même plus que ça, parce que les groupes de travail duraient 2 heures typiquement, à écouter ce que disaient d'autres, à suivre des démonstrations, etc. Vous restez toujours à l'école, quoi. Et puis, beaucoup de conférences, beaucoup de colloques. C'est les scientifiques qui voyagent le plus, hein, les mathématiciens. Parce que c'est tellement important, les discussions, qu'on passe tellement de temps à voyager. Quand vous comparez un CV d'un physicien à celui d'un mathématicien, ce qui vous saute aux yeux, c'est que le physicien publie plus et que le mathématicien voyage plus. Et beaucoup de ces discussions. Alors, sur le contact entre les mathématiciens et les physiciens, c'est très variable. Ça dépend des personnalités, ça dépend des endroits, ça dépend des atmosphères, ça dépend des cultures, ça dépend des pays. Il y a des conditions dans lesquelles le dialogue se fait très bien et d'autres dans lesquelles le dialogue reste maigre. C'est très variable. Ça m'est arrivé d'avoir faire participer à des groupes de travail communs. Régulièrement, et encore maintenant, je reçois des invitations pour faire des séminaires dans des laboratoires de physique ou participer à des conférences de physique. Et j'ai investi pas mal de temps. La communication est parfois difficile aussi pour des questions de vocabulaire, une question de mots que quand vous êtes mathématicien, il faut juste pas employer quand vous parlez à des collègues, même quand c'est des physiciens. Oui. Et puis voilà ce qu'on peut dire. Je reviens aussi sur sur cette question de abandonner, se lancer dans le truc ou pas, et cette question de mettre les pieds sur le montrer pourquoi, mettre le doigt, pardon, sur pourquoi les choses ne marchent pas. C'est un exercice que j'ai vu dans un bouquin de l'économiste Dan Kahneman, et c'est un conseil qu'il donne avant de vous lancer dans un grand projet. Ça peut être vous, ça peut être à l'échelle de l'entreprise, et avant de se lancer pour de vrai, ou pour se préparer à se lancer, vous faites faire l'exercice suivant par les personnes impliquées ou par les chefs de service quand c'est dans le cadre d'une entreprise et tout. L'exercice, c'est se projeter dans le futur. Imaginez, nous sommes dans un an, et l'opération que nous sommes en train de lancer s'avère avoir été un échec extraordinaire. Imaginez et racontez. Prospective catastrophe. Et ça vous arme très bien, ça, avant de vous lancer. Le fait d'avoir représenté les scénarios catastrophes possibles.
Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires-là de... On parle beaucoup d'intelligence artificielle, tout ça, de...
Ouais. Alors.
Ouais, voilà.
Ouais. Merci. Oui. Intelligence artificielle. C'est un sujet qui est à la fois vieux et neuf. Vieux parce que ça commence dans les années 1950 et que certains algorithmes qui sont mis au point à cette époque-là sont la base des algorithmes qu'on utilise toujours maintenant. En même temps, neuf parce que c'est seulement récemment que les capacités des machines sont devenues suffisantes pour envisager d'avoir des vraies applications et des choses assez performantes. Et parce que c'est venu aussi avec une révolution psychologique, si j'ose dire, l'idée de pas chercher à contrôler le résultat, ni même à le comprendre, mais de laisser l'algorithme apprendre tout seul, sans qu'on sache vraiment pourquoi, la façon dont il va y arriver. Bon. Ça soulève plein de débats, qui sont pas forcément ceux qu'on attend ou ceux qui sont les plus publics. Par exemple, il y a un consensus parmi beaucoup d'acteurs que le problème majeur face auquel se retrouvent les concepteurs de programmes d'intelligence artificielle, c'est celui de faire en sorte que le programme puisse expliquer, puisse non seulement donner la réponse, mais aussi expliquer quels sont les éléments de choix importants qui ont mené à cette réponse. Ça, c'est un vrai problème fondamental pour l'avenir de la relation de confiance homme-machine. Bon. Sur l'intelligence artificielle, il y a plein de possibilités qui sont évoquées par les enthousiastes, et il y a plein de dangers qui sont aussi évoqués par les uns et les autres. Le premier danger, c'est celui de l'expérience qui tourne mal, ou de la mise au point d'une intelligence supérieure qui va prendre le contrôle, prendre des décisions par elle-même, voire dominer l'humanité sur le long terme. Ça, c'est de la science-fiction. Pour l'instant, nous en sommes tellement loin qu'il n'y a même pas de raison d'envisager ce genre de scénario, on est tellement loin que ça a guère de sens. Deuxième danger possible, c'est le danger économique, avec l'arrivée d'un paquet de robots intelligents et d'algorithmes intelligents qui vont se mettre à remplacer des humains, comme on dit, surtout sur les milieux de compétences intermédiaires. Pas les plus bas niveaux, pas les plus hauts niveaux, entre guillemets, mais compétences intermédiaires. Le danger est non négligeable, mais pas si effrayant que ça, au sens où il y a un consensus aussi chez les experts ou dans les cabinets de conseil qui s'intéressent sérieusement au sujet, ou chez les chercheurs qui réfléchissent là-dessus, sur le fait que, à l'heure actuelle et sans doute pour encore longtemps, la combinaison homme plus machine restera nettement plus efficace que la machine toute seule, et qu'on s'achemine plutôt vers des programmes qui sont des auxiliaires des personnes aux commandes, et qu'il s'agira de fournir des services plus élaborés. Exemple typique, sur un sujet où on attend les machines au tournant depuis un moment, c'est le diagnostic automatique. Et pour l'instant, on est confiant, tout le monde est confiant sur le fait que le médecin armé de son algorithme de diagnostic automatique sera plus efficace que le médecin traditionnel, mais plus efficace aussi que l'algorithme tout seul, pour diverses raisons. Donc ce deuxième danger, il est réel, mais pas si effrayant. Troisième danger, qui pour le coup existe, pour le coup est déjà en application, c'est le risque de, comme vous avez des techniques avec intelligence artificielle, des techniques très fines de modulation, de contenu, de message, d'action, des risques de manipulation et de détournement et tout ça. Ça existe déjà, et on a des éléments très forts pour penser que aussi bien le vote du Brexit que le vote que l'élection de Donald Trump ont été influencés par des algorithmes très malins développés dans le cadre de la du profilage, comme on dit, des utilisateurs à partir des traces qu'ils laissent sur Internet, à partir de leurs différentes actions. Des algorithmes qui vous permettent de faire de la publicité ciblée très finement et qui vous permettent finalement de vous livrer à des opérations de manipulation à grande échelle. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours.
Oui, moi je voulais juste savoir.
Pardon. Ah voilà.
Pardon, je voulais juste savoir avoir votre avis en fait sur le système éducatif français et aussi on va dire quel conseil vous pourriez donner à un prof de maths aujourd'hui. Merci.
Système éducatif français, il a plein de problèmes. Comme il part de très haut, même s'il a connu plein de problèmes dans les dernières décennies, il reste très haut quand on le compare à l'international. Par exemple, vous comparez le système éducatif français au système éducatif américain, il n'y a toujours pas photo sur le fait que le système éducatif français reste un système de qualité. D'ailleurs, aux États-Unis, comme un peu partout dans le monde, les lycées français sont la référence pour ceux qui veulent une éducation de qualité pour leurs enfants. À un détail près, système français et plus généralement européen est très inférieur au système américain pour ce qui est de donner confiance aux élèves. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel on a à apprendre, c'est donner confiance. Bon, maintenant, pour ce qui est de conseils pour les enseignants, le conseil le plus important, je crois, c'est que la méthode pédagogique, elle est à travailler par l'enseignant, l'enseignante elle-même. Hein ? Il faut faire des expériences, se mettre en rapport avec d'autres collègues, vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas, aller discuter avec les gens de l'IREM, aller discuter, partager les informations avec les autres collègues, et ainsi de suite. Et puis, il y a plein de du partage d'expérience aussi qui se fait par les ouvrages. Et c'est le plus important, je dirais. Après, évidemment, il y a une combinaison. Est-ce qu'on va le faire plus tôt? Est-ce qu'on va illustrer le cours avec ceci ou avec cela? Est-ce qu'on va le faire sous un angle plus abstrait, plus concret, et ainsi de suite? Ça dépend des sensibilités. Mathématiques, c'est une discipline abstraite. On ne peut pas contourner ça. Donc, il faut qu'il y ait une certaine dose d'abstrait. Et puis après, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de marge de manœuvre qui reste. La tâche n'est pas facile pour les profs de maths aujourd'hui, parce que les horaires sont réduits, parce que le grand écart demandé n'a jamais été aussi important, avec à la fois plus de culture, plus de sujets, et en même temps, il faut aller plus loin sur certains thèmes parce que y a la préparation avec l'informatique, par exemple, et tout ça. Les programmes de physique se sont effondrés, ce qui a été, en tout cas au plan quantitatif, ce qui pose plein de problèmes pour les illustrations des cours de maths. Et puis voilà. Dans mon parcours, les enseignants les plus influents, ceux qui ont été les plus importants pour moi, étaient ceux qui se souciaient le moins du programme, ou même, je dirais, qui ne le suivaient pas du tout. Donc, ne restez pas le nez collé sur le programme, ça va être mon conseil.
Merci, monsieur, pour votre intervention. Moi, je vais rester dans le domaine de l'école. On parle beaucoup de la pédagogie de l'erreur aujourd'hui. En tout cas, on met le focus sur ce type de pédagogie. Je voulais avoir votre point de vue sur ce sujet.
Vous savez, pédagogie, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas trop savoir. Vous savez, c'est comme à une époque, on a fait là, il y a eu la révolution maths moderne, on en parlait beaucoup, il y avait, c'était à la télévision, ouais, maths moderne, tout ça, et puis à l'usage, ça n'a pas marché. Ou du moins, ça a dû être pris de façon importante. C'était pas que la méthode, c'était même pas tellement la question de savoir si la méthode était marchée ou pas, c'est que les enseignants étaient juste pas formés pour le faire. Bonne méthode avec des enseignants pas formés, c'est pas la peine d'essayer. Et en l'occurrence, la méthode était même pas si bonne que ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu cette autre affaire qu'on a bien vue, méthode, à une époque, c'était méthode globale de lecture. Bon, on a essayé, ça n'a pas marché. Ben voilà. Donc on a rechangé. Il y a très peu de règles en pédagogie. Il faut tester pour voir. Pédagogie, je parlais tout à l'heure de cette question de la confiance. Je sais pas si c'est avec les erreurs qu'il faut particulièrement travailler là-dessus. Il y a certainement d'autres choses. Ce qui est certain, c'est que il y a un problème particulier, surtout en cours de mathématiques, lié au blocage que peuvent ressentir les jeunes, voire la paralysie qui les empêche de répondre et d'essayer. Il y a diverses façons de faire essayer les jeunes. La programmation, bien sûr, en est une. Et c'est naturel, et on sait maintenant, et petit à petit, ça commence à être accepté que tous les enfants doivent apprendre à programmer et que c'est un entraînement à la rigueur d'un raisonnement qui est très utile aussi pour comprendre un cours de mathématiques. Il n'y a pas d'âge minimal pour apprendre à programmer. À partir de 10 ans, on peut le faire, mais même dès tout petit, dès la maternelle, il y a des expériences qui peuvent initier à la programmation. Et ce qu'il y a de bien dans la programmation, c'est que vous devez essayer de faire des trucs, et on fait des erreurs sans arrêt. On passe son temps, comme on le sait bien, à corriger les bugs quand on fait de la programmation. Et puis, il y a des boucles. On essaye, on corrige, et ainsi de suite. Et donc, c'est pas mal, ça, en tout cas. Je sais pas si ça rentre dans ce qu'on appelle pédagogie de l'erreur, mais c'est pas mal pour apprendre à travailler sur ses erreurs.
Une question plus philosophique. Est-ce que vous pensez que les mathématiques existent en dehors des êtres humains, ou est-ce que vous pensez que c'est une création purement humaine ?
J'étais en train de me dire, c'est curieux. Elle m'a pas posé la question, alors que d'habitude, elle revient après chaque conférence. Et moi, je suis dans le camp de ceux qui croient que la mathématique existe indépendamment de l'être humain. C'est une position que j'estime modeste, parce que, après tout, penser qu'on a inventé un truc aussi beau, est-ce que c'est pas un péché d'orgueil pour l'humanité ? Et puis, c'est une position qui a l'avantage de me laisser penser que les jolis diamants mathématiques sont là, prêts pour être cueillis, et que le mérite n'est pas tant sur moi que sur le fait qu'il y a tellement de belles choses dans ce monde des idées. Voilà. Et le point carré, là, c'est un exemple pour raccrocher à la conférence de quelqu'un qui a trouvé quelques-uns de ces beaux diamants comme s'ils avaient été faits tout exprès. Voilà. Je vous remercie.